Radio Okapi.
Les acteurs politiques et humanitaires de plus de 50 pays africains se réunissent à partir de ce jeudi 30 octobre à Paris en France. Ils font une autopsie de la crise humanitaire dans la région des Grands Lacs afin de trouver des solutions. À Goma, le téléphone portable ne sert plus seulement à communiquer. C'est aussi devenu un véritable outil gagne-pain. Le mobile money s'impose aujourd'hui comme l'un des business les plus rentables dans la ville. Cependant, la population déplore les commissions exigées par les opérateurs pour chaque retrait. Crefdel recommande la dissolution du FRIVAO. Invité de Radio Okapi ce jeudi, Christelle Simba, la chargée de communication de cet ASBL, membre du consortium Congo n'est pas à vendre, reproche à FRIVAO d'avoir échoué de remplir sa mission sociale. La réponse de FRIVAO à la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition du journal parlé et de la mi-journée. Les regards sont tournés ce jeudi vers Paris où plusieurs acteurs politiques et humanitaires issus d'une cinquantaine de pays se réunissent depuis ce jeudi 30 octobre 2025 dans la capitale française à Paris. Ils font une autopsie de la crise humanitaire dans la région des Grands Lacs afin de trouver des solutions. Cette initiative, portée par la France et co-présidée par le Togo, il faut le souligner, vient en appui aux efforts diplomatiques déjà engagés à Doha et à Washington. Alain Irungu-Mushinji.
Pour Rémi Maréchaux, ambassadeur de France en République démocratique du Congo, cette conférence va resensibiliser la communauté internationale à l'urgence de mobiliser des fonds pour venir en aide aux populations victimes des affres de la guerre dans l'est du Congo et dans l'ensemble de la région.
On constate en matière d'aide humanitaire une certaine fatigue et pour remobiliser, il faut réexpliquer quelle est la situation.
De son côté, le gouvernement congolais salue l'organisation de cette conférence. Le ministre de la Communication et des Médias qui le dit, estime qu'elle permettra entre autres de prendre en compte le volet humanitaire qui n'est pas repris dans les négociations de Washington et de Doha. Patrick Mouyaya.
La RDC traverse la deuxième plus grande crise humanitaire d'Afrique et cette conférence a pour objectif principal justement de mobiliser la communauté internationale afin de répondre à cette urgence humanitaire.
L'opposant Martin Fayoulou, quant à lui, écrit sur son compte X qu'il est à craindre que l'on se trompe de priorité. La conférence de Paris devra se consacrer aux questions humanitaires, au cessez-le-feu et à la mise en œuvre de la résolution 2773. L'intégration économique régionale ne pourrait se bâtir sans la paix et la souveraineté des États, dit-il.
Ici au pays, le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale réaffirme la détermination de l'armée à défendre l'intégrité territoriale du pays. Dans un communiqué lu par le porte-parole des forces armées de la RDC, général-major Sylvain Ekenge est parvenu ce jeudi à Radio Okapi, Guy Kabombo Mwadiam Vita accuse les rebelles de l'FCM-23 de commettre divers actes en violation du cessez-le-feu. Face à cette situation, il appelle la population au calme, à la vigilance et à faire confiance en son armée engagée sur le terrain avec professionnalisme et courage. Blaise Ndongala Mayanda propose un extrait de cette déclaration lue par le général Sylvain Ekenge.
La République démocratique du Congo continue à subir l'agression de la part de son voisin, le Rwanda, sous les couverts de l'AFCM-23 en dépit des processus de paix en cours et de la main tendue de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Contrairement aux allégations contenues dans leur communiqué, il s'observe un renforcement des dispositifs de la coalition rebelle, tant en hommes qu'en matériel provenant du Rwanda, ainsi que des attaques répétées des positions des forces loyalistes. 3. Dans les zones occupées, les populations subissent des atrocités et des graves violations des droits humains. Ces dernières sont utilisées comme boucliers humains par l'agresseur. Le gouvernement de la République a le devoir sacré de protéger la population et ne peut en aucun cas la soumettre à une quelconque souffrance de plus. Sa préoccupation majeure demeure le rétablissement de l'intégrité de son territoire. Les forces armées de la République démocratique du Congo restent mobilisées et engagées pour défendre l'intégrité territoriale.
Sur terrain, les belligérants s'accusent mutuellement des actes de violation du cessez-le-feu. Pendant ce temps, en Ituri, une cache d'armes appartenant à la milice Convention pour la Révolution populaire, CRP de Thomas Lubanga Dilo, a été découverte par les forces armées à Mabanga dans le territoire de Djougou. Selon les FARDC, ces armes et munitions auraient été dissimulées par ce groupe armé après leur débâcle lors des opérations militaires menées dimanche dernier dans cette région minière. Le porte-parole de l'armée, le lieutenant Jules Ngongo, affirme que l'objectif de ces opérations est de pacifier la zone et de restaurer l'autorité de l'État, longtemps mise à mal par la présence des groupes armés. Le lieutenant Jules Ngongo est au micro de Martial Kizabiamongo.
Grâce à la vigilance et au professionnalisme de nos troupes, la fouille a permis la récupération d'un lot significatif d'armes et de munitions de guerre composées de 8 fusils d'assaut de type AK-47, 2 fusils d'assaut de type AK-56, un pistolet mitrailleur de type Uzi, 18 chargeurs garnis, un lot important de munitions de différents calibres. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la poursuite des efforts de pacification. Au nom du commandant des opérations et gouverneur militaire de la province de l'Ituri, le lieutenant général Luboyanka Chamadjouni félicite ces hommes pour leur sens élevé du devoir, leur discipline et leur détermination à restaurer la paix et la sécurité dans cette partie du territoire national. Les opérations se poursuivent pour éradiquer toute forme de menace de groupes armés.
La nouvelle société civile congolaise s'est dit préoccupée par la décision des autorités congolaises portant interdiction des activités politiques du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD et de l'Alliance des Travaillistes Congolais ATC, deux formations membres du mouvement dit Sauvons la RDC, dirigée par l'ancien président Joseph Kabila. Dans un communiqué publié hier mercredi à Kinshasa, cette structure indique que tout en reconnaissant au gouvernement son devoir sacré de préserver l'ordre public, la sécurité nationale et la stabilité institutionnelle, elle appelle à la retenue, à la responsabilité et au respect scrupuleux des principes constitutionnels garantissant le pluralisme politique, la liberté d'expression et d'association. On écoute Jonas Tchombela, son coordonnateur, au micro d'Alain Irung.
La nouvelle société civile congolaise exhorte le gouvernement à reconsidérer ses mesures restrictives et à privilégier le dialogue et les voies pacifiques de résolution des différends politiques et sécuritaires, afin d'éviter toute tentative, toute tentation pouvant fragiliser davantage l'espace civique et démocratique déjà éprouvé. Par ailleurs, la nouvelle société civile congolaise invite le PPRD, l'ATC et les autres formations politiques concernées à lever toute ambiguïté quant à leur position face à l'agression que subit la République démocratique du Congo de la part du Rwanda et de ses supplétifs AFC-M23. Le moment actuel exige de tous les acteurs politiques une attitude claire, patriotique et responsable, tournée vers la défense de l'unité nationale, la souveraineté du pays et la paix durable.
Nous le disions en titre, à Goma, le téléphone portable ne sert plus seulement à communiquer. C'est aussi devenu un véritable outil gagne-pain. Le mobile money s'impose aujourd'hui comme l'un des business les plus rentables dans la ville, dans un contexte où les banques et coopératives restent inaccessibles. Cependant, la population déplore les commissions exigées par les opérateurs pour chaque retrait. Les dites commissions varient entre 4 et 5% du montant. Pour un retrait de 1000 dollars, par exemple, une retenue de 50 dollars est appliquée. Denis Loukesso s'est intéressé à cette activité en pleine expansion et nous propose ce reportage.
Sur les boulevards Kanyamuranga, menant vers la Grande Barrière, ce sont des files qu'on trouve devant les kiosques des Mobile Money. Transfert d'argent, retrait, paiement, chaque opération rapporte une petite commission aux agents, parfois plusieurs dizaines de milliers de francs congolais par jour. Tout comme dans d'autres quartiers de la ville, ce sont les maisons de transfert qui fleurissent. Un agent des Mobile Money témoigne sous anonymat qu'avec cette opération, il gagne chaque jour. Les gens viennent du matin au soir, surtout les fonctionnaires en fin du mois, et les commerçants. Les principaux opérateurs M-Pesa, Airtel Money et Orange Money se disputent ces marchés en pleine expansion. Dans un contexte où les banques restent peu accessibles, les Mobile Money deviennent donc la banque du peuple. Selon un économiste, les Mobile Money créent non seulement de l'emploi, facilitent les paiements et stimulent les petits commerces. Cependant, il estime qu'il faut plus de sécurité et de liquidité pour soutenir cette croissance. Les Mobile Money, un business qui paye aujourd'hui à Goma, mais qui exige vigilance et confiance. Le reste, c'est la clientèle qui fait la différence, d'après cet économiste.
Une bonne nouvelle pour les habitants du territoire de Mwenga au sud Kivu. La route nationale numéro 2 vient de rouvrir à la circulation après 3 semaines d'interdiction par la FC-M23. Le trafic a repris normalement hier mercredi. Cependant, le délabrement très avancé de cette route ne facilite pas la mobilité des véhicules qui desservent Mwenga en produits de première nécessité. Reportage.
Des véhicules et des motos chargés de marchandises à destination de Mwenga et Kamituga ont été autorisés à traverser la barrière qui avait été érigée à Bwahungu par l'AFC M23 il y a 3 semaines. Selon l'administrateur de Mwenga, ce libre passage des engins contenant des produits de première nécessité est un soulagement. Écoutons Ishikito Mao.
La population ne peut qu'être heureuse de cette situation parce que cette route, c'est l'unique route qui approvisionne des services toute la population du territoire de Mwenga et de Chabunda. Quand on a bloqué la route, c'était vraiment un calvaire pour cette population. Si on décide de réouvrir, c'est la joie de toute la population.
À force de traîner à la barrière durant plus de 20 jours, quelques marchandises périssables ont perdu leur valeur marchande. Un commerçant a vu son capital s'effondrer brusquement. Ces cartons d'œufs se sont périmés à l'intérieur d'un camion bloqué à la barrière durant 3 semaines. Un autre défi est l'état de délabrement très avancé de la route nationale numéro 2. De nombreux bourbiers empêchent les transporteurs de se mouvoir facilement.
La mutuelle de santé des enseignants de l'EPSP, MESP, a lancé officiellement ses activités pour la province du Kasaï central hier mercredi. L'activité a eu lieu à Kananga, chef-lieu de la province. La mutuelle vise à assurer les soins de santé des enseignants matriculés et payés, ainsi que des membres de leur famille, soit 4 membres par enseignant. Des détails dans ce reportage nous proposés par André Katende Ngalamulume.
La mutuelle de santé des enseignants de l'EPSP, MESEP en sigle, est enfin arrivée au Kasaï central 14 ans après sa création. La cérémonie de l'installation a eu lieu en présence des enseignants, responsables des syndicats des enseignants, responsables des structures sanitaires ainsi que des autorités administratives, éducatives et sanitaires de la province. Les enseignants ont salué l'arrivée de la mutuelle et attendent d'elle un bon service. Jonas Kabinda, l'un d'eux, émet le vœu de voir la MESEP offrir les soins de qualité.
Ce que nous pouvons demander, c'est accueillir avec humanisme les enseignants qui pourront être malades. Ce que nous ne souhaitons pas voir dans l'exercice de cette mutuelle, c'est simplement le dérapage.
Le coordonnateur provincial de la MESEP invite les enseignants du Kasaï central déjà éligibles au service sanitaire de se faire identifier pour en bénéficier. Joseph Bopé.
Tout enseignant payé par l'État est d'office membre de la MESP. Mais ce qui lui reste à faire, c'est d'arriver au centre d'identification de la mutuelle de santé, se faire identifier.
Signalant que la MESEP offre ses services dans un premier temps aux enseignants de la province éducationnelle Kasaï Central 1, où elle a déjà signé les partenariats avec les structures sanitaires et compte étendre l'action dans celle du Kasaï Central 2 dans les jours à venir. Kananga, André Katendengalamulme, Radio Kapi.
Le coordonnateur provincial de la Commission nationale des droits de l'homme dans le Haut-Katanga plaide pour l'isolement des 7 prisonniers de la Kasapalo Lubumbashi souffrant de la tuberculose. Pour Joseph Kongolo, il y a fort à craindre au regard de la promiscuité dans laquelle vivent ces prisonniers qui sont en surnombre par rapport à sa capacité d'accueil. On écoute Joseph Kongolo, coordonnateur provincial de la CNDH dans les Haut-Katanga, joint par Jean Ganduka Bongo.
Parmi les détenus dépistés, qu'il y a 7 cas de tuberculose multirésistante et ces 7 cas nécessitent un isolement de peur que les autres détenus soient contaminés. C'est pour nous l'occasion d'exhorter encore, d'inviter les décideurs au niveau national et au niveau provincial de penser à accomplir leurs obligations en matière de droits de l'homme et de manière spécifique à ce qui concerne les droits des personnes détenues. Et ici, nous parlons de l'obligation de respecter les textes qui en la matière, l'obligation de protéger les détenus et l'obligation de mise en œuvre des droits des détenus.
Actualité internationale.
Au Cameroun, les avocats du mouvement Stand Up for Cameroun évoquent au moins 1200 personnes gardées à vue à Douala, la capitale économique, 29 à Bafoussam, dans l'ouest, et 78 à Maroua, dans l'extrême nord. Des arrestations à la suite de la proclamation de la victoire de Paul Biya par le Conseil constitutionnel lundi 27 octobre, annonce contestée par l'opposant Issa Chiroma Bakari, qui revendique la victoire de son fief de Garoua.
L'invité.
Le Centre de recherche en finances publiques et développement local CREFDEL recommande la dissolution du Fonds spécial de répartition et d'indemnisation des victimes des activités de l'Ouganda en République démocratique du Congo, FRIVAO. Invité de Radio Capice jeudi, Christine Simba, la chargée des communications de CETASBEL, membre du consortium Congo n'est pas à vendre, CENPAV, reproche à FRIVAO d'avoir échoué de remplir sa mission sociale. Elle regrette que FRIVAO n'ait payé que 2 millions de dollars sur la somme de 105 millions destinés à l'indemnisation des victimes de la guerre de Kisangani en deux. Christelle Simba s'entretient avec Blaise Ndongala Mayanda.
Bonjour Madame Christelle.
Bonjour.
Le Centre de recherche en finances publiques et développement local vient de publier son rapport sur la gestion des FRIVAO et vous recommandez dans ce rapport la dissolution de cet établissement. Pourquoi avoir proposé cette mesure?
Déjà, c'est un organisme public qui a été créé par décret du Premier ministre et pour que cet organisme fonctionne, devrait bénéficier d'une dotation propre et émargeant au budget de l'État, chose qui n'est pas le cas. FRIVAO a été créé depuis 2019 et de 2019 à 2025, les trésors publics n'ont mis à la disposition des FRIVAO aucun fonds pour son fonctionnement. La conséquence, c'est que pour que FRIVAO assure son fonctionnement, FRIVAO commence à puiser l'argent destiné à indemniser les victimes et payer les rémunérations, payer les frais de fonctionnement. Nous pensons que c'est irrégulier parce que le gouvernement n'a pas su respecter ses engagements. Il crée un organisme public mais ne met à la disposition de cet organisme aucun crédit pour que celui-ci assure son fonctionnement. Et le pire, c'est que FRIVAO reçoit de l'argent venu de l'Ouganda, de l'argent que cette institution gère. Automatiquement, cet argent, c'est l'argent du trésor public. Mais cet argent n'apparaît ni dans la loi des finances de l'année, ni dans la loi portant réduction des comptes de l'année, qui permet en fait aux citoyens d'avoir une photographie sur comment les fonds publics ont été gérés.
Vous ne craignez pas que la dissolution des FRIVAO sacrifie les victimes de la guerre de Kisangani?
Non, nous ne craignons pas parce que son existence a tout de même sacrifié. De 2022 à 2024, l'Ouganda a mis à notre disposition 195 millions de dollars américains, dont 105 millions de dollars américains devraient être payés aux victimes, c'est-à-dire aux personnes. Mais vous serez choqués de savoir que FRIVAO n'a payé que 2 millions de dollars. Et pendant ce temps, 4,2 millions de dollars ont été envoyés dans un bureau d'échange de monnaie. Et pendant cette même période, 1 500 000 dollars ont été retirés de façon injustifiée au niveau du ministère de la Justice. À quoi ont servi cet argent? Nous ne craignons pas parce que la présence des FRIVAO égale son absence. Il y a des instances, des entités habilitées à gérer ces fonds. Nous pensons que si la gestion des FRIVAO est confiée à la COGEBISCO ou au FOLUCO, par exemple, on aura des bons résultats parce que ces deux institutions émargent au budget de l'État.
Ces institutions sont gérées par
quel ministère?
Ces institutions sont sous tutelle du ministère de la Justice et Garde des Sceaux.
Disposez-vous des moyens de coercition pour faire reculer les détournements des deniers publics?
En tout cas, les seuls moyens dont nous disposons, c'est notre voix, c'est notre travail. Nous, en tant que citoyens, nous nous sommes engagés à faire le suivi de ces fonds et à publier des documents que nous transmettons à la justice. Nous avons franchi la première étape de faire parvenir nos rapports à la Cour des cassations. C'est vrai que le dossier est déjà entre les mains de la justice, mais il se pourrait qu'il y ait certains aspects qui ont échappé à la justice. Et dans notre rapport, nous sommes certains que la justice va trouver tous les éléments dont elle a besoin. Nous ne sommes pas la justice, nous n'avons pas les pouvoirs de mettre aux arrêts, mais nous sommes disposés à fournir à la justice les éléments dont elle a besoin pour faire son travail.
Vous êtes sûr que cette même justice fera son travail aussi longtemps qu'elle est maintenue ou sous pression politique?
En tout cas, nous espérons que la justice fera son travail parce qu'il y a quand même une avancée significative et nous la saluons, celle de la condamnation d'un ancien ministre justement au sujet des Frivao et de la mise aux arrêts d'un des mandataires des Frivao. Nous pensons que c'est déjà un pas. Et si la justice dispose de tous les éléments qu'il faut, nous pensons que cette justice-là peut aller encore plus loin.
Quelles sont selon vous les conséquences sur les plans social de tels détournements?
Sur les plans social, c'est d'abord l'injustice, l'injustice sociale. Nous avons des personnes qui ont été amputées, qui ont perdu des parcelles. Socialement, c'est l'injustice et ça prive à la population les moyens de leur épanouissement, les moyens de leur survie. Les détournements, en fait, empêchent également le développement du pays. Parce que parmi les clauses de l'arrêt international de la justice, il y a également les indemnisations pour les dommages causés aux biens et aux ressources naturelles. La ville de Kisangani a été dévastée. Aujourd'hui, les routes sont impraticables. La province de la Tchopo fait partie de l'une des provinces les plus enclavées du pays. Il n'y a pas de routes, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Les détournements de ces fonds privent aux citoyens les biens de première nécessité, privent aux citoyens d'avoir accès aux infrastructures socio-économiques de base.
Madame Christelle Ntimba, nous vous disons merci.
C'est moi qui vous remercie.
En réaction, la secrétaire rapporteuse du Frivao estime que l'institution n'a pas disposé des moyens nécessaires pour mettre en œuvre sa politique de manière efficace. Et c'est par là que nous mettons un point final à cette grande édition du journal parlé de la mi-journée, coordonnée par Élisée Chikotachi-Voueta, supervisée par Alain Irung Mouchinge et Alain Goy. La mise en onde, ce journal est disponible sur toutes nos plateformes numériques ainsi que sur notre site internet www.radiocapi.net.